Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Un attentat a fait au moins 35 morts au Burkina Faso. Une bombe a explosé au passage d'un convoi de ravitaillement. C'est arrivé dans le nord du pays. La France a réagi après que les autorités israéliennes ont prolongé de 3 mois la détention de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se dit pleinement mobilisé sur sa situation. La situation en Tunisie, marquée par une pénurie de certains biens de première nécessité, une hausse des prix à la consommation, le président d'État Katol, Khalil Zaouya, déplore une situation économique et sociale particulièrement difficile. Il sera l'un de nos invités. L'Union européenne exprime sa grave préoccupation à propos des remarques qualifiées d'hostiles du président turc Recep Erdogan à l'encontre d'Athènes. L'invité de Pluriel hier soir arrêté, Philippe Juravert, responsable des luttes nationales au sein de la France insoumise. Il a notamment évoqué la réduction du nombre de RERC en région parisienne, extrait dans votre édition. Ce très lourd bilan au Burkina Faso. Au moins 35 personnes, 35 civils ont été tués, 37 autres blessés après l'explosion d'une bombe. Elle a explosé au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso. Les victimes sont essentiellement des commerçants qui partaient s'approvisionner à Ouagadougou et des élèves qui rejoignaient la capitale pour la prochaine rentrée scolaire. Le Burkina Faso est confronté à la violence de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique, des violences qui ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés. La Tunisie est confrontée à une pénurie de certains biens de première nécessité. Le pays qui, lui aussi, est frappé par une hausse des prix à la consommation. Sur cette situation, entretien avec le président d'État Katol, ancien ministre tunisien des Affaires sociales, Khalil Zaouya.
C'est une rentrée très difficile, comme on n'en a jamais vécu depuis 30 ou 40 ans, qui est faite de deux phénomènes. D'abord, une pénurie de produits, même des produits de base tels que le sucre, qui a eu des conséquences même sur la production des usines, par exemple, de boissons gazeuses ou des pâtisseries, et ainsi de suite. Donc, il y a eu même certaines unités qui ont été mises en chômage technique. Puis, deuxièmement, une augmentation du coût de tout ce qui est relatif aux élèves et aux lycéens, cahiers, livres, avec une augmentation du coût qui est très importante, qui dépasse les 20% en moyenne. Et deuxième phénomène, c'est cette situation de flou financier qu'on est en train de vivre avec un État qui n'arrive pas à payer même le carburant et même le gasoil. Et on a eu la semaine dernière une pénurie en essence, il y avait vraiment des files d'attente énormes dans les stations-service pour pouvoir faire le plein. Et ça a été très difficile. Donc, c'est une rentrée sociale très dure qui a deux titres, une pénurie des produits de base et une inflation qui est actuellement officiellement autour de 9%, mais je pense qu'on est à une inflation à deux chiffres.
Et face à cette pénurie des produits de base, des mesures de rationnement ont-elles été mises en place?
Pas d'une manière déclarée et organisée. C'est surtout les détaillants qui, par exemple, on a eu une pénurie en eau minérale. Maintenant, si on va acheter en eau minérale, on ne donne qu'un pack, on ne peut pas acheter deux packs. On a une pénurie en café. Ceux qui vendent au détail le café ne délivrent que 200 grammes par personne. Mais ce n'est pas l'État qui organise ça, c'est en fait les détaillants. Le sucre aussi, maintenant, il y a beaucoup de pâtisseries qui se sont mises à baisser le sucre dans les pâtisseries qu'ils font. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui est organisé, qui est prévu par l'État. Et c'est ça qui aggrave cette situation qui devient parfois angoissante pour certaines catégories.
Cette situation, cette inflation importante, ces pénuries également, est-ce lié essentiellement à la guerre menée par la Russie en Ukraine?
Non, c'est surtout la solvabilité de l'État tunisien. Il y a plusieurs fournisseurs qui sont arrivés, qui sont restés en rade devant le port de Rhades et qui finalement n'ont pas débarquer leurs produits parce qu'ils n'ont pas été payés.
Vous nous dites que la guerre en Ukraine a accentué les difficultés du pays, mais que ces difficultés étaient déjà présentes avant.
Tout à fait. On a des difficultés pour les médicaments maintenant, parce que les produits de base pour fabriquer les génériques sont de moins en moins importés. Donc, il y a quelques 200, je crois, médicaments qui sont actuellement en pénurie en Tunisie. Il y a eu même pendant une courte période une pénurie de l'insuline. C'est quand même un médicament vital. Puis ça s'est rattrapé. Donc, c'est tout ça est dû aux difficultés financières et en devise de l'État tunisien.
Et face à cette inflation galopante, des aides sont-elles mises en place par l'État ?
Pas de manière significative. On vient d'avoir même une augmentation. Le prix de l'essence est fixé par l'État. Donc récemment, il y a 15 jours, on a eu une augmentation du coût de l'essence. Donc ça a ses répercussions surtout. Hein. Le café, maintenant, à la consommation, lorsqu'on va prendre un café quelque part, le prix a presque doublé. Il n'y a pas particulièrement une distribution d'aide aux plus démunis. Non, non. Et on est dans la même situation.
Des mouvements sociaux sont-ils prévus ces jours prochains en Tunisie ?
Il y a eu pendant l'été des mouvements sociaux parce qu'il y avait une pénurie d'eau, parce qu'il y avait parfois des coupures de courant dans certaines régions. Le GTT, le syndicat, est en négociation actuellement depuis une semaine avec le gouvernement, mais il y a une grève générale qui est programmée, qui est décidée, mais bon, dont la date n'a pas été encore fixée. Donc, ils réclament des augmentations de salaire pour les fonctionnaires. Et s'il n'y a pas une bonne réponse ou une réponse adéquate du gouvernement, ça va aboutir à une grève générale encore une fois. On en a eu une au mois de juin, maintenant il va y avoir une deuxième et ça a un coût. Chez nous, dans nos pays, c'est parfois un petit événement qui met le feu aux poudres. Et donc, ça devient ingérable. Pour le moment, c'est la fin de l'été, il fait encore très chaud. La rentrée n'est pas tout à fait effective, parce que la rentrée, c'est à partir du 15 septembre, ce n'est pas la semaine prochaine. Donc, les gens ne ressentent pas l'augmentation du prix des cahiers, des stylos, pas encore. Bien sûr, il y a des mécanismes anciens, tels que tout ce qui est livres scolaires ou cahiers, qui sont compensés par l'État. Il y a eu une pénurie pour ces produits-là déjà. Depuis une semaine, les détaillants dans les régions parlent de manque de ces produits qui sont de produits de consommation courante pour les lycéens et les élèves.
Khalil Zaouia, vous présidez le mouvement État Catol qui fait partie d'une coalition de gauche démocrate en Tunisie. Que préconisez-vous face à cette situation ?
D'abord et en premier lieu, un discours de vérité sur la situation des finances du pays. Actuellement, on est toujours, et surtout au niveau du sommet de l'État, le président estime toujours que l'augmentation du coût de la vie est due à des fournisseurs ou bien de la contrebande, alors que ce n'est pas vrai. C'est dû à un phénomène économique mondial qui a des répercussions en Tunisie et dont il faut avoir un programme clair et net et dire que si on va faire un rationnement, on le dit. Et qu'on dit s'il va y avoir une augmentation du coût des produits à la consommation, on le dit, et on essaye de gérer ça dans la transparence. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des accusations, des grosses fortunes, ce qui, à mon sens, n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il y a une inflation de par le monde. Et il faut reconnaître que la Tunisie, du fait de ses difficultés financières, aggrave cette inflation. D'abord, le discours de vérité. Deuxièmement, un programme de sortie de crise qui soit rationnel et qui soit consensuel, avec un partage des difficultés équitable entre les classes les plus favorisées et les classes les moins favorisées. Certainement qu'on va passer par une période où il va y avoir peut-être un rationnement, peut-être des difficultés pour les plus démunis, mais il faut qu'il y ait un programme clair de soutien, sinon on risque d'avoir des émeutes même de la faim. Hein. C'est par juste une augmentation du prix du pain, comme en 84, ça peut mettre le feu aux poudres.
Concernant la coopération entre la France et la Tunisie, comment avez-vous apprécié le récent déplacement de la chef du gouvernement, Najla Boudène, à Paris? Najla Boudène qui, pour la première fois, a rencontré son homologue française, Elisabeth Borne.
C'est positif dans l'absolu, tout à fait. Mais on ne connaît pas encore les résultats palpables. Bon, j'espère que Mme Boudène est arrivée à convaincre les hommes d'affaires du MEDEF à venir investir en Tunisie, ce qui semble difficile actuellement. Les IDE en Tunisie sont en baisse constante. Donc on a même des départs de sociétés pétrolières, hein, c'est-à-dire un moment où de par le monde on cherche le moindre goutte de pétrole, chez nous il y a des départs. Le dernier en date c'est Shell qui quitte la Tunisie. Voilà, il faut essayer de convaincre. Or, convaincre les investisseurs étrangers, notamment les Français, c'est d'abord il faut qu'il y ait un climat d'affaires propice. C'est-à-dire moins de bureaucratie, plus de transparence, une justice indépendante, ce qui n'est pas le cas actuellement, et puis un climat politique et social apaisé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les relations avec le syndicat sont très tendues, les relations politiques en général entre les intervenants politiques et même ceux de la société civile avec le gouvernement et l'État en général sont très difficiles. Tout ça n'encourage pas les investisseurs étrangers à venir. J'espère qu'ils vont venir, parce que la Tunisie, quand même, elle a des fondamentaux économiques qui sont bien. Et j'espère que, quand même, les investisseurs, notamment français, vont s'engager à venir en Tunisie. Il y a beaucoup de choses à développer chez nous. Et j'espère que la chef du gouvernement est arrivée à les convaincre.
Le président d'État Katol en Tunisie, Khalil Zaouia, ex-ministre tunisien des Affaires sociales. Réaction de Paris après que les autorités israéliennes ont prolongé de 3 mois la détention de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Paris souligne que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est pleinement mobilisé sur la situation de Salah Hamouri et veille à lui apporter toute l'assistance possible. Le Quai d'Orsay souligne avoir conduit de multiples démarches, notamment auprès des autorités israéliennes. Au cours des derniers mois, un Palestinien a été tué, 16 autres blessés. C'est arrivé ce matin lors d'une opération de l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée. Une opération, selon le ministère palestinien de la Santé, visant à détruire la résidence de l'auteur d'une attaque meurtrière à Tel Aviv. Attaque qui a fait 3 morts le 7 avril dernier. Les États-Unis appellent Israël à chercher les responsables de la mort par balle en mai dernier de la journaliste Shirin Abu Akleh. Nous soulignons à nouveau l'importance de déterminer les responsabilités dans ce cas. C'est ce que déclare dans un communiqué le porte-parole du département d'État américain. Cela après que pour la première fois, l'armée israélienne a reconnu une forte possibilité d'avoir tué accidentellement la journaliste de la chaîne Panarab Al Jazeera. La reporter américano-palestinienne avait été tuée le 11 mai dernier alors qu'elle couvrait des opérations menées par l'armée israélienne. Le président turc a menacé la Grèce de payer un prix élevé, estimant qu'elle violait l'espace aérien turc et harcelait les avions turcs en mer Égée. Le moment venu, a-t-il dit, nous ferons le nécessaire, nous pouvons arriver subitement la nuit. Réaction de l'Union européenne suite aux propos de Recep Tayyip Erdogan. L'Union européenne exprime, selon ses mots, sa grave préoccupation à propos des remarques hostiles, dit-elle, du président turc à l'encontre d'Athènes, à propos des îles grecques proches de la Turquie. Ces remarques hostile de la part du leadership politique turc contre la Grèce et le peuple grec soulève de graves préoccupations, s'inquiète Peter Stano, le porte-parole du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Le deuxième jour du procès de l'attentat de Nice, il s'est ouvert hier devant la cour d'assises spéciale de Paris, 6 ans après le drame du 14 juillet 2016. 7 hommes et une femme sont accusés d'avoir apporté une aide au terroriste qui a tué 86 personnes le 14 juillet 2016 en fonçant dans la foule avec un camion sur la promenade des Anglais. Les audiences sont retransmises au Palais des Congrès de Nice. L'invité de Pluriel hier soir était Philippe Juravert, responsable des luttes nationales au sein de la France Insoumise, conseiller régional d'Île-de-France. Il a notamment évoqué la réduction du nombre de RERC en région parisienne, 19 trains en moins chaque jour. Extrait.
Déjà, je vais vous compter un petit peu ce que m'a répondu la présidente, hein, en pleine commission, en pleine séance Île-de-France Mobilité, à savoir
Valérie Pécresse,
si la SNCF était capable de faire plus avec moins, c'était très bien. Je l'avais à l'époque alerté sur le fait qu'il y avait des calculs d'effectifs qui étaient totalement erronés sur les lignes de RER, C, B, D et d'autres, mais la C notamment, à savoir ils sont en sous-effectif. Depuis l'opération Covid qu'il y a eu, il y a eu forcément une baisse de l'offre de transport et les lignes ont fonctionné au ralenti. Depuis, petit à petit, il y a eu une augmentation du trafic aux heures de pointe et un tassement aux heures dites creuses. Et donc, dans ces heures de dites creuses, ça a permis à la direction du RERC de pouvoir économiser au niveau de son budget et la masse salariale en disant ben, on va essayer de faire plus ou tout aussi bien avec moins d'effectifs. Il y a moins de conducteurs. Donc ils n'ont pas anticipé sur les départs à la retraite, ils n'ont pas anticipé sur toutes les défections qu'il y a pu y avoir depuis que, vous savez, depuis que la SNCF donc, a changé de statut. Il est évident qu'il y a eu un départ massif des conducteurs, notamment, et donc ils n'ont pas du tout anticipé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces lignes-là, il y a une guerre qui se crée parce que ils ont énormément de mal à embaucher et ils ont une pression de la région, notamment de Valérie Pécresse, pour pouvoir continuer à optimiser. Et si jamais ils n'optimisent pas leur régularité, leur trafic, eh bien ils reçoivent des pénalités.
Philippe Juravert, la RATP est aussi à la recherche de 1800 chauffeurs de bus. Que doit faire l'entreprise pour attirer ces nouveaux chauffeurs ?
Comme il y a eu la perte du statut déjà, il n'y a aucune garantie pour les chauffeurs hein, de pouvoir avoir des garanties sur leurs conditions de travail, sur leur déroulement de carrière. Tout cela, on n'en parle plus. Il faut, d'une part, consolider au niveau du statut ce qu'il est possible d'embaucher les conducteurs et, d'autre part, augmenter les salaires. Parce que les salaires qui sont proposés compte tenu du travail qu'on leur demande de fournir, eh bien, plus personne ne veut être conducteur. Et ils ont plus en plus de machinistes qui laissent leur emploi au bout d'une semaine, deux semaines d'embauche. Il y a, en termes d'embauche des machinistes, une formation qui était donnée, qui n'est plus donnée aujourd'hui. Parce que comme on se libéralise de plus en plus, la formation est quelque part bâclée. On essaie de récupérer ce qu'on peut comme chauffeur. D'ailleurs, on demande aux machinistes de parrainer des embauches moyennant une prime. Des chauffeurs de bus. Toute cette culture n'existait pas auparavant. Avant, on était, je veux pas dire fiers, mais on était heureux de rentrer dans cette entreprise. Il y avait vraiment une culture d'entreprise qui n'existe plus maintenant. Maintenant, c'est la privatisation.
Philippe Juravert, responsable des luttes nationales au sein de la France Insoumise, conseiller régional d'Île-de-France. Il était l'invité de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière. Loïc Barrière qui recevra ce soir à 19h et 23h Mohamed Lamine Gassama, référent La République en marche dans le 20e arrondissement de Paris. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 17 à midi 30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, à 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.